Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique du groupe Alten pour la présentation de l'activité du premier trimestre 2021. Bruno Benoliel, directeur général adjoint, animera cette séance. Monsieur Benoliel, la parole est à vous.
Bonsoir. Je vous remercie à tous pour participer à notre conférence trimestrielle qui concerne l'activité du premier trimestre donc 2021. Ce trimestre, la reprise de l'activité que nous avions constatée au dernier trimestre de l'an passé, qui était extrêmement faible à ce moment-là, s'est affermie, comme vous avez pu le constater dans les chiffres qui viennent d'être diffusés au travers des communiqués que Cécile a envoyés il y a quelques minutes. Bon, même si les performances restent hétérogènes, tant sur le plan géographique que sectoriel, la décroissance d'activité aura été quasiment divisée par deux par rapport au dernier trimestre 2020, alors que le premier trimestre de l'an passé a été le trimestre le plus fort sur le plan historique d'Alten. Notre chiffre d'affaires s'est donc établi à 681,1 millions d'euros, un recul de 1,3% par rapport au premier trimestre 2020. Il aurait été stable à change constant. L'effet conjugué de la croissance organique et de la croissance externe a donc permis d'effacer en un an, sur le plan de l'activité tout au moins, la crise que nous avons traversée et qui n'est pas finie. En France, l'activité a reculé de 12,7% et de 15,3% à données constantes. Hors de France, l'activité est en croissance de 6,8%, mais de 5,6% en données constantes. Au global, à données constantes donc, le recul de l'activité pour le groupe Alten ce trimestre est de 9,6%. Témoin de l'amélioration de l'activité, notre taux d'activité s'est progressivement amélioré, mais reste encore insuffisant, passant de 86,4% au Q4 de l'an passé à 88,5% au premier trimestre 2021. La tendance est néanmoins positive puisque de 87% en janvier, notre taux d'activité a progressé pour atteindre 90% en mars et se rapproche du taux normatif de 92 à 92,5% pour Alten. Beaucoup de pays ou de régions sont revenus à des taux d'activité normatifs, voire supérieurs, mais l'intercontrat subsiste à certains endroits, sans surprise, comme à Toulouse par exemple, dans l'automobile en France et en Allemagne notamment. Le recours au chômage partiel s'est quand même réduit comme conséquence de l'amélioration des taux d'activité. Il subsiste en France et en Allemagne. Il était de 5% au niveau du groupe au dernier trimestre 2020. Il a été ramené à moins de 3% au premier trimestre 2021. Et comme je vous le disais, essentiellement en France et en Allemagne, puisqu'il est encore de 6% en France et de 12% en Allemagne. Les effectifs ont continué à décroître au cours de ce trimestre. Pour rappel, nous étions 33 800 collaborateurs, dont 29 400 ingénieurs, à fin décembre 2020. Nous sommes aujourd'hui 37 150 à fin mars 2021, dont 32 400 ingénieurs et consultants, un niveau presque équivalent à celui de fin mars 2020. À cette date-là, nous étions 37 500 collaborateurs, dont 32 760 ingénieurs à cette date-là. Hors acquisition et cession, les effectifs ingénieurs se seraient élevés à 30 180 personnes, soit une augmentation séquentielle entre décembre 2020 et mars 2021 de 780 personnes, qui s'analysent comme suit, moins 129 en France et plus 909 hors de France. Si on analyse la situation par zone géographique, comme on le fait habituellement, à fin mars. En France, l'activité est donc en décroissance de 15,3%, toujours pénalisée par l'auto et l'aéronautique civile. L'automobile, qui représente 11,5% du chiffre d'affaires France désormais, décroît toujours de 35%, et l'aérospatiale, 20% du chiffre d'affaires France, a décru de 35%. Les autres secteurs sont en croissance pour l'essentiel. Les secteurs porteurs restent l'énergie, 16% du CA, à l'exception de l'oil and gas, la pharmacie, 9% du CA, le ferro-naval, 8% du CA, et la défense et sécurité, également 8% du CA en France, tous ces secteurs étant en croissance de 10% ou plus. À l'international, la situation s'est également nettement améliorée, même si quelques pays ou sociétés sont toujours confrontés à des taux d'intercontrat trop élevés. Au global, hors de France, l'activité a donc reculé de 5,6%, alors que la décroissance était de 12,4% au dernier trimestre 2020. En Amérique du Nord, et en particulier aux États-Unis, qui représentent 80% de la zone nord-américaine, l'activité recule encore de 10%, moins 20 au Q4 de l'an passé, pour mémoire, du fait de l'auto, de l'oil and gas et du tertiaire principalement. Au Canada, qui représente 20% de la zone nord-américaine, la croissance se poursuit. Elle a été de 11% ce trimestre, grâce au secteur banque-assurance tertiaire, télécom et life science. Au Canada, tous les secteurs sont en croissance, à l'exception de l'aéronautique et de l'énergie, qui représentent uniquement 10% du chiffre d'affaires canadien à eux deux. En Allemagne, l'activité recule encore de 24%, malheureusement, recul toujours important, mais qui traduit néanmoins une amélioration de la situation, car il s'est réduit assez sensiblement. Pour mémoire, le Q4 2020 était en baisse de 31% et le Q3 de 34%. Je précise que les taux de décroissance ou de croissance sont comparables d'un trimestre sur l'autre, si j'ose dire, dans la mesure où l'activité a chuté au deuxième trimestre de l'an passé, et que là, nous ne bénéficions pas d'un effet de base qui redeviendra favorable à compter du deuxième trimestre, puisque l'activité avait fortement décru, le premier trimestre de l'an 2020 étant un trimestre très très élevé pour Alten. L'activité en Allemagne a légèrement redémarré dans l'automobile, néanmoins, elle est encore à moins 23. C'est sûr que c'est mieux que les moins 30 et moins 40 des deux derniers trimestres de l'an passé, mais c'est encore largement insuffisant. Dans l'aéronautique, l'activité n'a pas redémarré en Allemagne, contrairement à la France où on a noté une légère amélioration de la situation. Elle reste à moins 50 par rapport à l'an passé, et c'est un secteur qui ne représente plus que 18% du chiffre d'affaires allemand. Les autres secteurs principaux, finance tertiaire, industrie et life science, sont tous en croissance. En Espagne, l'activité a reculé de 5,6% du fait des secteurs télécom, tertiaire et aéronautique, l'activité étant en croissance sur tous les autres secteurs. En Italie, l'activité continue à croître de façon, je dirais presque spectaculaire. La croissance n'a pas faibli, très légèrement en 2020. Cette année, elle a dépassé les 20% au premier trimestre. Tous les secteurs sont en croissance, les plus fortes progressions étant l'automobile, plus 27%, qui représente 20% du chiffre d'affaires. La défense and space, plus 30%, qui représente 12% du chiffre d'affaires italien. Le ferroviaire et les sciences de la vie. En Scandinavie, à périmètre échange constant, l'activité recule encore de 15%. En Finlande, qui représente un quart du chiffre d'affaires de la zone, l'activité ne recule plus que de 5%. Le secteur des biens d'équipement industriel étant quasiment revenu à l'équilibre. Quant à la Suède, qui représente les trois quarts, l'activité s'améliore, même si elle recule encore de 19%. Pour mémoire, c'était moins 28 au dernier trimestre 2020, du fait des secteurs auto et poids lourds, comme d'habitude, un tiers du chiffre d'affaires et du secteur tertiaire, tous les autres secteurs étant en croissance. Au Benelux, notre activité est repassée en croissance de 3%. L'activité est revenue à l'équilibre en Belgique, où les secteurs, la plupart d'entre eux sont en croissance, surtout la pharmacie. Aux Pays-Bas, l'activité a accru de 6% grâce aux comptes électroniques et semi-conducteurs, tous les secteurs significatifs étant également en croissance. En zone Asie-Pacifique, le périmètre a renoué avec la croissance également, puisque la croissance organique est de 15,5%. L'Inde, qui représente 30% de la zone APAC, et la Chine, 20% de la zone, ont réalisé une progression de 16 à 17%. Le Japon, 15% de la zone, une croissance supérieure à 25%. L'Inde a cru grâce au secteur de l'électronique, semi-conducteurs auto et tertiaire. La Chine grâce à l'auto et l'électronique et semi-conducteurs également. Au UK, l'activité continue à se redresser, même si la décroissance est de 12%. Toujours très affectée par la forte baisse des comptes aéro et auto, mais les diversifications entreprises dans d'autres secteurs continuent à progresser sensiblement. En Suisse, pour la première fois, l'activité se stabilise, en recul notamment d'un secteur de l'industrie en particulier, alors que tous les secteurs continuent à croître, life science et finance notamment. L'Europe de l'Est, que nous avons fait apparaître cette fois-ci dans le tableau, puisque ça représente 2% du chiffre d'affaires dorénavant du groupe, une activité qui a fortement progressé en Pologne, plus 40% grâce au secteur finance tertiaire, en Roumanie également, de façon moindre, puisque l'activité ne croît que de 10%. Voilà pour l'analyse de notre activité par secteur par zone géographique. Par secteur d'activité, comme je le fais habituellement, je vais vous donner les tendances principales. Au premier trimestre, l'évolution par secteur s'inscrit dans le prolongement du second semestre 2020. L'automobile, l'aéronautique reste donc durablement touchée par la crise, aéronautique civile, je précise. Les autres secteurs sont à l'équilibre ou en croissance. Si on commence par l'automobile, 16% du CA dorénavant, en recul de 23%, mais en amélioration relative, puisqu'on était à moins 36% sur Q3 et moins 33% sur Q4 l'an passé. Chez les constructeurs, la situation est quand même contrastée. Certains sont en croissance, même assez sensible, au-dessus de 10%. Je pense à des comptes comme FCA ou Ferrari, par exemple. D'autres sont en croissance, Volkswagen, Toyota, et d'autres sont en forte décroissance. Chez les équipementiers, la situation est à peu près identique, c'est-à-dire assez hétérogène. Dans le ferro-naval, presque 5% du chiffre d'affaires, la croissance est toujours à deux chiffres. Les perspectives sont bonnes dans ces deux secteurs. L'aérospace, 10,2% du chiffre d'affaires a décru de 38%. L'activité s'était stabilisée sur des niveaux de moins 50 au Q3 et Q4 et a légèrement redémarré. La visibilité est quand même assez faible dans l'aéronautique civile, en particulier chez Airbus. Le sous-secteur du spatial, qui représente 2,5% du chiffre d'affaires du groupe dans les 10,2%, a redémarré comme anticipé l'année dernière, dès le premier trimestre, et il progresse de quasiment 5% par rapport à 2020. Les activités de défense et sécurité, 5,2% du chiffre d'affaires, ont également redémarré. L'activité a progressé de 8% ce trimestre, certains comptes étant en forte croissance. L'énergie, 11,5% du chiffre d'affaires du groupe est stable, mais l'oil and gas, qui en représente 5%, est en recul de 13%. Suite aux coupes budgétaires additionnelles qui ont suivi la baisse des cours l'an passé, le nucléaire, un peu plus de 3% du chiffre d'affaires dorénavant, continue à croître d'environ 11%, et le domaine des équipements pour l'énergie, un peu plus de 3% du chiffre d'affaires également, a accéléré son rythme de croissance pour dépasser les 12%. Dans les sciences de la vie, pas loin de 10% du chiffre d'affaires dorénavant. La croissance est également accélérée à 10,5% grâce au secteur de la pharmacie essentiellement, car celui des équipements médicaux est stable. Les autres industries représentent 6% du chiffre d'affaires, en croissance de 5% également après un recul de 10% en 2020. Les télécoms, 6% du CA sont en légère décroissance, moins 4% quand même, principalement du fait de certains opérateurs, mais les évolutions par client sont très hétérogènes. En fait, tous les clients sont en croissance, à l'exception d'Orange en début d'année et de SFR Altice, mais ce qui était déjà le cas l'an dernier dans des proportions assez sensibles, puisqu'ils avaient exprimé et mis en œuvre leur volonté de réinternaliser les prestations, réinternalisation qui s'est accélérée avec la crise Covid en 2020 et qui continue à se déployer au premier trimestre 21. Toute l'activité électronique, médias et e-commerce, 7% du CA est stable après un recul de 13% en 2020. Elle a donc recommencé à croître significativement, et ce malgré 80% de baisse d'activité chez Amadeus. Ce sont les activités semi-conducteurs et électroniques qui ont réalisé l'essentiel de la croissance. Enfin, l'activité finance tertiaire, stable aussi bien dans le retail service et services publics que dans la banque assurance, même si les évolutions par client et par géographie sont très hétérogènes. Nos activités maintenant M&A sur le trimestre. Nous avions annoncé déjà une première acquisition début 2021 qui fait partie des sociétés que nous avons relistées dans le communiqué. Donc Alten a réalisé donc trois nouvelles acquisitions en 2021 en France et à l'international. En France, une première société dans la transfo et la digitalisation des systèmes d'information qui avait été annoncée, donc qui a fait 37 millions d'euros de chiffre d'affaires et 280 personnes. En Allemagne, on a acquis une société dans le logiciel et soft embarqué dans l'automobile, qui a des clients intéressants, qui réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Et on a acheté une petite société qui fait du conseil et de la formation agile pour renforcer l'implantation européenne de notre filiale spécialisée dans ce domaine aux US. Société qui a des implantations au UK et en Finlande, qui a réalisé 9,5 millions de chiffre d'affaires l'an passé. Toutes ces sociétés seront consolidées au 1er juillet 2021 simplement. Alors concernant les perspectives 2021, il est un peu tôt pour donner des prévisions assez précises. Habituellement, on le fait rarement de toute façon à la publication du mois d'avril, mais on a quand même des grandes tendances qui se dessinent sur l'année. Là, on n'est pas sorti de la crise, on fonctionne par à-coups au gré des confinements, même si finalement l'organisation en télétravail semble assez bien fonctionner, un peu partout, et semble plus être un frein réellement, en tout cas au delivery pour les projets. Ça pénalise toujours l'activité commerciale, puisque les réunions en présentiel, alors s'il y a des soutenances, c'est quand même plus facile de les mener dans des grandes salles de réunion que de les mener avec Teams ou Zoom. Bon, enfin, cela dit, comme vous avez pu le constater dans les chiffres, l'activité est quand même globalement satisfaisante. Il n'y aurait pas l'auto et l'aéro, on publierait des chiffres de croissance organique assez élevés. Malheureusement, là, nous avons affaire à deux secteurs qui sont structurellement pénalisés par la crise pour encore un an ou deux, au minimum en tout cas pour l'aéronautique. La reprise d'activité a quand même été un peu plus forte que nous anticipions, pour être honnête, sur ce trimestre-là, notamment en février-mars, notamment le retour à un taux d'activité de 90% que l'on n'attendait pas si tôt, alors même que des zones géographiques sont encore avec des taux d'activité de 78 ou 80%. Donc, sauf nouvelle aggravation de la crise sanitaire, normalement, on devrait renouer avec la croissance organique en données year to date au troisième trimestre 2021. Question qui m'avait été posée l'an passé pour laquelle j'avais dit ne pas pouvoir répondre. Aujourd'hui, franchement, sauf à ce que les choses se détériorent fortement d'ici la fin du deuxième trimestre, on devrait logiquement, et ce malgré ce qu'on appelle le cut, c'est-à-dire en fait les arrêts de projets semestriels qui eux sont saisonniers, renouer à fin septembre avec des données year to date positives pour le groupe Alten. Voilà, je vais laisser la parole aux participants. J'imagine que certains ont des questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile 1 sur le clavier de votre appareil. S'il vous plaît, assurez-vous que votre ligne ne soit pas en silence. Je vais vous avertir quand vous pouvez poser votre question. La première question vient dans la ligne de M. Emmanuel Parot de Gilbert Dupont. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour Bruno, si tu m'entends. J'avais trois questions. La première, en fait, c'est sur la dynamique automobile. Est-ce que tu pourrais nous apporter un peu plus d'éléments sur l'Italie qui surperforme pas mal par rapport à la France et l'Allemagne? Alors apparemment, les comptes FCA et Ferrari fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a un effet prise de part de marché, ou c'est juste que les budgets sont en forte hausse? Ma deuxième question, c'était sur le chômage partiel. Donc 2-3%, de l'ordre de 600-700 personnes. Est-ce que tu penses que dès le T3, ce sujet sera derrière vous? Et enfin, ma dernière question, c'était sur la marge brute. Bon, sur le dernier call, tu disais qu'il n'y avait pas de sujet sur les prix salaires des consultants. Est-ce que tu es toujours dans cet environnement-là? Merci.
Alors, prendre les questions dans l'ordre. Donc, pour la partie automobile, l'Allemagne a redémarré légèrement dans l'auto. On a reçu pas mal d'appels d'offres et de consultations au premier trimestre et toujours au deuxième. Ça tarde à se concrétiser en chiffre d'affaires, mais on voit quand même redémarrer un peu le secteur automobile allemand. Essentiellement sur les projets qui sont autour de tous les métiers du soft embarqués et évidemment tous les projets qui tournent autour des véhicules zéro émission. Ça, j'imagine que je ne vais pas vous surprendre. En France, une reprise moins nette dans l'automobile, mais qui devra intervenir, je pense, au second semestre. Notamment dans les comptes PSA et Renault. En Italie, je ne saurais pas dire s'il s'agit d'une prise de part de marché ou de budget en hausse. Mon sentiment, c'est que on a une équipe qui est vraiment excellente et que on doit probablement prendre des parts de marché parce que j'imagine pas que les budgets aient pu croître de plus de 20% ni chez FCA ni chez Ferrari. Je pense qu'il y a peut-être aussi un phénomène qui s'opère chez ces constructeurs qui est qu'ils doivent probablement augmenter le recours à l'externalisation et il doit probablement y avoir un effet de balancier entre les coûts internes et les coûts externes, ce qui explique la forte progression, mais progression qu'on avait déjà soulignée l'année dernière, hein, à contre-courant de l'ensemble des constructeurs automobiles. Chez Volvo Cars en Suède, l'activité s'est stabilisée et repart doucement. Chez Ford aux US, on est à nouveau en croissance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Chez Volkswagen, ça dépend des marques. Il y a des marques chez lesquelles on est revenu en croissance. Donc ça, c'est pour l'Allemagne plutôt du Nord, puisque c'est Wolfsburg. Et on continue à décroître chez certains en Allemagne du Sud. Voilà pour les principales implantations dans le UK, chez Jaguar Land Rover, qui est un gros compte aussi. Pour l'instant, l'activité repart, mais vraiment très très doucement. Bon, cela dit, tous les constructeurs auto et les équipementiers, dans une moindre mesure, ont à répondre aux mêmes enjeux. La transition rapide vers le tout électrique, puisqu'il y a même certains constructeurs aujourd'hui qui parlent de bypasser complètement l'étape de l'hybride. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, puisqu'en fait, quand on se rend compte qu'on a des flottes de véhicules hybrides, c'est bien pour la ville, mais enfin, dès qu'il s'agit de faire un peu de route, ça consomme plus que les voitures essence, donc c'est pas forcément, sur le plan écologique, une bonne réponse. Il est probable donc que ça va accélérer la demande en termes de projets pour les mois à venir, ou l'année à venir. On est moins inquiet sur l'automobile que sur l'aéronautique. Ou sur l'aéronautique, il y a eu une reprise, et plus particulièrement en France, parce qu'elle s'est pas trop vue en Allemagne. Mais elle sera beaucoup, beaucoup plus lente que celle qui devrait s'opérer dans l'automobile. Alors le chômage partiel, on a quand même toujours en France, à Toulouse, essentiellement et à Nantes, donc essentiellement des projets qui étaient des ex-projets Airbus, des poches d'intercontrat qui se résorbent difficilement puisqu'en fait c'est au gré du turnover que l'intercontrat baisse. Alors on n'a plus des niveaux d'intercontrat comme ceux qu'on a pu connaître, mais on a encore des niveaux d'intercontrat qui sont de l'ordre de 15%. C'est pareil en Allemagne du Sud, à Munich, dans l'automobile. Alors, notre stratégie, c'est autant que faire se peut, déjà d'essayer de favoriser les mobilités et les mutations. Donc on a par exemple aujourd'hui des projets à Paris, dans d'autres secteurs d'activité, qui pourraient parfaitement correspondre aux compétences qu'on a à Toulouse. Le problème, c'est que quand les gens sont en chômage partiel et qu'ils sont payés à rester à la maison à 97% de leur salaire, c'est très compliqué de les faire bouger. Donc pour l'instant, tant que le chômage partiel est en place, c'est compliqué, parce que d'un côté, on a des besoins qui nous conduisent ou à recruter ou à pas satisfaire, alors qu'on a les compétences. Donc le jour où le chômage partiel va s'arrêter, ben, probablement que ça va se résorber, ça va se résorber nécessairement, puisque que les gens n'auront plus de ressources. En Allemagne, alors sur Toulouse, donc juste pour finir sur la France, on a un taux de chômage partiel qui est de 6% aujourd'hui, mais qui devrait au troisième trimestre se réduire aux alentours de 2 à 3%. Donc on pense le diviser quand même par deux. En Allemagne, c'est un peu plus question mark, parce que ça dépend vraiment de la reprise du secteur auto. En plus, les conditions d'indemnisation en Allemagne sont assez généreuses. Donc notre hypothèse, c'est aussi une division par deux du taux de chômage partiel au troisième trimestre. Mais ça, ça se fera au gré de la reprise dans le secteur auto. Voilà. Enfin, la marge brute. Oui, la réponse à la question est positive, à savoir que la marge brute se maintient au niveau où elle était l'an passé et l'année d'avant. On n'a aucun effet négatif sur les fondamentaux de la marge brute. Bon, inutile de vous dire que les augmentations de salaire cette année ont été extrêmement parcimonieuses, pour pas dire nulles à certains endroits. Les prix se sont tenus, globalement. Il n'y a pas eu de baisse de tarifs. Donc, même s'il peut y avoir des effets de mix dans nos prix liés à la seniorité des consultants ou au poids plus ou moins important de certains secteurs d'activité, et ça, ça relève du prix de vente moyen de l'entreprise, ce qu'on appelle le prix de vente financier, mais les prix de vente clients, donc commerciaux négociés avec nos gros clients, eux n'ont pas bougé. Donc notre marge brute est restée protégée pour l'instant et elle dépend essentiellement aujourd'hui de notre niveau d'intercontrat. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions.
Ouais, très bien. Merci beaucoup.
La prochaine question vient de la ligne de Monsieur Derek Marcon de Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Salut Bruno.
Bonjour Derek. Très bien.
Alors, j'avais trois questions. La première, c'est juste, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de granularité, sur la décroissance de l'oil and gas en France versus un ton qui était beaucoup plus positif en dehors de France? Pourquoi en France, c'est encore planté versus à l'international? Ma deuxième question, c'est sur le M&A. Est-ce que tu pourrais nous donner en fait la croissance affichée? Tu mentionnes en fait la contribution du M&A au Q1 2001, les 9,4%, si je ne dis pas de bêtises. Ça représente, donc ça fait 65 millions d'euros. Ça représente un chiffre d'affaires de combien en fait au Q1 2020, juste pour apprécier en fait la trajectoire de croissance des sociétés qui sont rentrées récemment dans le périmètre. Et puis ma dernière question, c'est sur la modélisation en fait. Tu nous as déjà beaucoup aidé avec les year to date à fin Q3, mais est-ce que tu penses du coup que dès le Q2, tu peux, avec évidemment l'effet de base, atteindre une croissance organique à deux chiffres? Voilà mes trois questions.
Ce sont des questions très précises. Alors, sur l'oil and gas, en France, oui, il y a une baisse de chiffre d'affaires avec Total, qui a beaucoup coupé et qui a recoupé dans ses investissements très fortement à la fin de l'année dernière. Je crois d'ailleurs qu'ils ont communiqué sur le sujet, donc je ne crois pas donner d'informations qui ne soient pas publiques, mais il y a eu des baisses d'investissement qui sont chiffrées en milliards d'euros. Donc effectivement, ça a beaucoup baissé en France. Mais ça a baissé aussi aux États-Unis. Il y a un compte notamment qui a beaucoup coupé aussi dans ses investissements, c'est Chevron, où on ne l'attendait pas et où on a eu une baisse d'activité de l'ordre de 10% qu'on n'avait pas vu venir.
Parce que globalement, avec le rebond du baril de pétrole, on devrait quand même être plutôt sur une dynamique positive, non? À l'exception de ces deux clients, le reste, finalement, ça croit parce que le secteur repart.
En fait, le reste, ça tient. Le problème, c'est que sur les projets importants, quand il y a les clients engagent des budgets qui peuvent être très significatifs, et il n'y a pas d'ajustement au contexte qui se fait en temps quasi réel. C'est-à-dire que l'année dernière, les cours ont beaucoup baissé. À un moment donné, le pétrole, même, il a tapé un peu négatif, je crois. Il est remonté à 20 euros. Bon. Et en fait, pendant toute cette période-là, il y a beaucoup de clients qui avaient des projets qui les ont purement et simplement coupés. Alors, c'est vrai que depuis, on a vu les cours du pétrole remonter. La question, c'est durable, c'est pas durable. Je sais pas comment nos clients l'analysent. Et le fait est, c'est qu'ils ont pris des décisions de réduction d'investissement à ce moment-là, l'an passé, investissements qui sont parvenus aujourd'hui dans le pipe. Le M&A, si j'ai compris la question, tu souhaiterais savoir quel était le chiffre d'affaires Q1 2020 des sociétés qu'on a consolidées pour la première fois au Q1 2021, c'est ça?
Ah, en fait, la contribution des acquisitions sur le Q1 2021, si j'ai bien fait le calcul, elle doit être autour de 65 millions d'euros. Donc, si tu prends ce périmètre-là, compté comme inorganique au Q1 2020, qu'est-ce que ça générait comme chiffre d'affaires au Q1 2020?
Bien, au Q1 2020, je ne peux pas répondre à la question parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait au Q1 2020.
Oui, t'as pas... Ou alors la performance économique de ces sociétés, tu la vois comment? C'est sur une trajectoire à deux chiffres
parce que ces sociétés qu'on achète, qu'on a achetées l'an passé, en termes d'arrêté de compte et de pilotage d'activité, c'est très sommaire, on va dire. Déjà, il faut les mettre d'équerre sur le plan du suivi financier. Et des indicateurs, à commencer par mettre en œuvre des procédures élémentaires de cut-off, c'est-à-dire des boîtes qui sont en cash basis, par exemple, quand on les achète. Donc, les comptes ne veulent rien dire. En revanche, donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre à la question, parce que je ne peux pas dire quel était le chiffre d'affaires du Q1 de l'an dernier, c'est des sociétés qui ne faisaient pas d'arrêté de compte. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que c'est des sociétés qui sont sur des trajectoires d'activité stables, flat. Il y en a même une, si je reconstitue les tendances d'activité au travers de deux indicateurs qui sont les effectifs, les externes et les taux d'activité, puisque ceux-là, quand on fait les due deals, on essaye de les reconstituer en recompilant les timesheets. Il y en a une qui est même en légère décroissance.
D'accord. Donc, si on résume sur les 13, en fait, en moyenne, ça fait du flat, et avec une seule qui est en décroissance.
Oui.
Et si on se projette un peu plus un trimestre, c'est des sociétés qui, a priori, n'ont pas vocation à rester flat.
Non, elles n'ont pas vocation à rester flat. Est-ce qu'elles le seront encore le trimestre prochain? C'est pas impossible. Alors, il y en a, dans toutes celles qu'on a acquises, il y en a et qui ont été consolidées là. Il y en a même deux qui sont dans une dynamique de décroissance. Il y en a une qui fait une petite croissance. Il y en a une qui est flat. Il y en a une autre qui est la plus importante de celles qu'on a acquises l'an passé, c'est SDG, qui est présente sur plusieurs pays, qui elle est en croissance à deux chiffres par rapport à l'an passé. Voilà, et toutes les autres, que ce soit Japon, Ukraine ou autres, elles sont flat. Alors, ce qu'on fait évidemment, c'est que on essaye de staffer l'organisation commerciale, et puis on fait comme on fait habituellement quand on les intègre, c'est-à-dire qu'on met en place nos outils, nos systèmes d'incentive, l'organisation commerce et recrutement en proximité. Et on les forme à nos techniques de développement commercial. Après, ça prend plus ou moins de temps. Mais effectivement, c'est des sociétés qui ont vocation à passer, à croître. De toute façon, quand on achète des sociétés, quand des sociétés se vendent, il y a deux raisons majeures à ça. Soit c'est une démarche qui est purement patrimoniale de la part des vendeurs, bon, ou c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé les clés de la croissance et du développement de leur société, et donc ils préfèrent s'adosser à un groupe pour ça. En tout cas, SDG, c'est une belle acquisition.
C'était la dernière question sur la croissance organique du Q2. Est-ce que double digit en organique, c'est déjà jouable ou ça te paraît un peu ambitieux?
On devrait être autour, en tout cas. On pourrait être autour.
Merci.
La prochaine question vient de la ligne de M. Laurent Dor de Kepler Cheffroy. Monsieur, c'est à vous.
Oui, merci. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Laurent.
Oui, j'avais plusieurs questions. Je voulais aussi revenir sur la dernière question de Déric. En ce moment-là, de 2020, en général, tu as un T2 qui est pas très éloigné du T1 en montant de facturation dans un environnement normatif. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de 2021, on reprend des effets de saisonnalité normaux ou il y a encore des éléments à prendre en compte?
Des éléments, c'est-à-dire qui perturberaient la saisonnalité habituelle?
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Non, normalement, il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a plus. Il peut y avoir... des décisions de confinement locaux ou partiels, ça et là, mais on est en train de revenir progressivement dans une situation à peu près normative.
Oui, donc on peut, pour modéliser les trimestres, ça fait sens de reprendre une activité séquentielle à peu près équivalente à ce qu'on avait dans le passé.
C'est ça.
Ok.
En tenant compte quand même du fait que, il faut tenir compte de la croissance. Même si elle n'est pas affichée en year to date par rapport au chiffre de 2020, il y a quand même une croissance séquentielle qui s'est opérée au Q1 qu'il faut prendre en compte dans la dynamique donc du Q2.
C'est-à-dire que tu attends une nouvelle accélération ou...
Non, d'où ma réponse en fait à Déric qui est de dire. Eric peut se demander si on pouvait s'attendre à une croissance organique Q2 sur Q2 qui soit de l'ordre à deux chiffres. Je dis pourquoi pas, peut-être un peu au-dessus, j'en sais rien exactement, mais je dis pourquoi pas, parce que effectivement, on a d'abord un effet de base qui va être beaucoup plus faible sur le Q2 de l'an passé, ce qui en théorie, en toute logique, quand on raisonne... en saisonnalité pure d'une année sur l'autre, évidemment, ça ne peut pas se voir dans les mêmes proportions. Mais l'hypothèse, c'est qu'on a fait de la croissance au Q1. Bon, cette croissance embarquée du Q1 sur le Q2, elle va continuer à porter ses fruits, bon, même s'il y a moins de jours ouvrés, etc. Quel mois de mai, enfin, tout ce que vous connaissez. Et puis, j'espère qu'on continuera à faire un peu de croissance organique, additionnelle, séquentiellement, soit par la réduction des taux d'intercontrat, soit par l'augmentation des effectifs projets, donc pourquoi pas du recrutement, on a repris un peu le recrutement au deuxième trimestre.
Et justement, c'était ma question suivante. Au niveau effectif déjà, est-ce que dans des départs, notamment en France, tu as eu cette année des plans en payant partir les effectifs? Ou est-ce que c'est complètement naturel, l'attrition? Et puis surtout, quels sont les plans de recrutement sur le trimestre en cours?
Voilà. Les plans de recrutement, on n'en a pas, parce que c'est totalement opportuniste. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne recrute que sur besoin, projet, essentiellement,
Il y a des endroits où, quand je vous ai dit qu'il y a des secteurs où on était à des croissances pas loin de deux chiffres, évidemment, là on recrute, quand on n'arrive pas à trouver les compétences en interne, mais on n'est pas revenu du tout dans la situation de 2018 ou 2019, où on avait des grandes campagnes de recrutement et où on embauchait les gens, même en n'ayant pas de projet, en se disant que de toute façon, notre capacité à disposer des ressources nous permettrait de gagner des projets. On n'est pas revenu dans cette situation-là.
Tu as dû faire partir des gens encore pour réduire tes intercos ou ça part naturellement?
Comment?
Sinon, sur les réductions dans certaines zones d'effectifs du T1, c'était l'année dernière, je me souviens que tu avais dû faire des petits plans. Est-ce qu'au T1, c'est des départs naturels, l'attrition, ou tu as dû lancer des petits plans de restructuration?
Non, l'an dernier, on a fait des petits plans de restructuration.
Oui,
on en a pas fait en France.
Oui. Et est-ce qu'en 2021, tu dois en faire d'autres ou c'est terminé ça?
Pour l'instant, on n'a pas prévu d'en faire d'autres. On en a fait deux petits en Allemagne. Enfin, un petit en Allemagne d'ailleurs, parce que l'autre, on n'a finalement pas fait. En Allemagne du Nord. Beaucoup plus réduit d'ailleurs que ce qu'on avait imaginé. Et sur l'Allemagne du Sud, pour l'instant, on a décidé de conserver les compétences en interne. Parce que c'est quand même des compétences qui sont celles demandées par les clients aujourd'hui. Donc on mise sur le chômage partiel. D'ailleurs, c'est la logique allemande. Hein. On s'inscrit à plein dedans en attendant que ça redémarre.
Ok, le dernier point.
Ouais, je disais donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas prévu de plan additionnel.
D'accord. Et ma dernière question, c'est sur les trois sociétés de M&A en termes de rentabilité et donc de prix. Il faut raisonner sur grosso modo sur quel montant. J'imagine que tu continues à acheter tes cibles à 6, 7 fois les vite.
Oui, c'est ça. Ça n'a absolument pas bougé.
Et comment tu pourrais nous donner des indications de marge pour qu'on ait une idée des sorties de cash?
Alors, les marges, c'est sur l'ensemble des sociétés qu'on a acquises, hein, la marge moyenne des trois, là, elle est de 6%.
Ok, rien, super. Parfait, merci beaucoup Bruno.
Donc, alors, juste Laurent, pour peut-être préciser la réponse là sur le T2, on a fait au T1 un périmètre constant, échange constant, on a fait 620, même si en fait le change nous a coûté pas loin du million. Je ne vois quand même pas faire à périmètre constant, hein, j'entends, le même chiffre d'affaires sur le Q2. Hein. Loin s'en fout. Hein. On a un effet. Si pas loin. Bon, si on peut être pas trop loin. On peut être pas trop loin.
Inférieur ou égal à 620, quoi.
Ouais, ça peut. Enfin, ce sera. Oui, c'est ça.
Ok. Parfait. Ouais, merci.
Si c'est ça, on n'a pas fait mes jeux encore. Hein, donc,
oui,
forcément,
oui.
C'est avec. Hein, bon, voilà, mais c'est, on va dire, c'est pas inatteignable. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est peut-être un peu ambitieux parce que comme l'activité est plutôt meilleure que ce qui était anticipé, les opérationnels reprennent pas mal confiance. Dans certains cas, ils sont ambitieux dans leur projection, on est obligé de les revoir un petit peu, mais bon. Voilà, c'est. Je ne sais pas si on fera autant, mais on ne sera pas forcément très très loin quand même. Enfin, j'espère en tout cas. Sauf à ce que mai et juin s'avèrent finalement beaucoup plus atones que ce qu'on imagine.
C'est très clair, merci.
Je t'en prie, Laurent.
La prochaine question vient de la ligne de M. Derek Marcon de Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Désolé de revenir, Bruno. J'avais oublié une question, mais qui est quand même importante. C'est, est-ce que tu as eu un effet congé très important sur le Q1 et comment tu l'as modélisé sur le Q2? Parce qu'on a, moi, j'ai fait comprendre d'autres sociétés de services informatiques qui, évidemment, les prises de congé, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, étaient assez faibles pendant la période de lockdown et compagnie. Est-ce que ça a joué sur le Q1 et comment tu as modélisé tout le Q2?
Non, ça, les prises de congés ont, enfin, non, ça a très peu joué sur le Q1. Et sur le Q2, on a prévu plus de congés qu'habituellement au Q2 pour les personnes qui, évidemment, alors celles qui sont en chômage partiel, on peut rien faire, hein, puisque on peut, voilà. Et les autres, on leur a demandé effectivement, dans la mesure du possible, de solder leurs congés. À fin mai, en octroyant un report possible, bon, évidemment pour les gens qui sont en projet.
D'accord. Je te remercie. J'espère que tu n'es pas malade ou que tu n'es pas covidé, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tu as la voix qui est un peu prise. Si c'est le cas.
Non, je suis peut-être un peu enroué, mais non, je ne suis pas covidé. Non.
Je te remercie.
Et je ne parle pas avec le masque puisque je suis tout seul dans mon bureau. Donc.
Merci Bruno. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Il n'y a plus de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. La prochaine question vient de la ligne de M. Grégory Ramirez de Brian Garnier. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno.
Bonsoir Grégory.
Un petit peu. Évoquer la, bon, c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt sur l'année, mais la question de la marge. Vu l'activité qui finalement est meilleure que prévue sur le premier trimestre et qui pourrait se translater sur les autres trimestres, bon, évidemment, ça implique des recrutements supplémentaires, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça générera un effet de levier supplémentaire sur la marge au cours de l'année? C'est-à-dire éventuellement revenir plutôt que prévu vers les niveaux normatifs de marge opérationnelle, enfin, autour de 10%,
ah non,
tel que ça avait été évoqué en février.
Non, ça c'est ça pour l'instant c'est pas envisageable de revenir vers les niveaux de marge opérationnelle normative. 2021, comme on l'a indiqué, sera une année de transition. On a donné des fourchettes assez larges, d'ailleurs, je crois, de marge prévisionnelle sur 2021. Je crois qu'on a dit entre 7 et 8. C'est une fourchette qui est plus large que ce qu'on donne habituellement. Pour l'instant, on s'y tient. On sera plus précis au mois de juillet quand même, parce que on aura une meilleure visibilité. Mais d'une part, parce que de toute façon, même si, en termes d'activité, les acquisitions ont permis de compenser une part de l'activité perdue, bon, elles viennent avec leur propre structure, et donc ça veut dire que sur le périmètre, on va dire, embarqué de fin 2019, début 2020 d'Alten, on a toujours des coûts qui, proportionnellement, sont plus élevés à ce qu'ils pouvaient être, à la fois sur la partie sales et sur la partie G&A. On les a beaucoup réduits, mais bon, on a décidé quand même de conserver des organisations et des programmes d'investissement qu'on avait prévus justement pour préparer les années à venir. J'avais expliqué aussi que on avait pris pas mal de locaux, dont certains aujourd'hui sont sans objet, à la demande des clients qui projetaient des externalisations massives. Voilà. Notamment dans l'automobile et l'aéronautique. Donc forcément, ça fait des surcoûts dont on va se défaire à partir du moment où on sera en mesure de résilier les baux. Mais donc, comme tu sais, c'est une fois tous les 3 ans en France. Et puis, ça répond aussi à d'autres conditions à l'international. Donc il y a un travail de rationalisation de l'immobilier qui est en train d'être fait. Mais bon, ça prend un petit peu de temps. Mais ça concourt aussi à rajouter de la dépense. Donc ce que je vous avais dit, je crois, enfin en tout cas, je sais que j'avais chiffré, en fait, le surcoût
en fonction du niveau d'activité de toute la partie SG&A par rapport à une situation normative, entre 120, 130 et 170 bips pour Alten sur 2021. Déjà ça. Ensuite, il y a tous les aspects liés à la marge brute. On n'a pas déshabillé les directions techniques, on n'a pas déshabillé tous les centres d'excellence et on continue à organiser le ramp-up dans certains ADC pour la partie nearshore et offshore. Les taux d'activité sont pas revenus à la normale non plus. Hein. Je vous ai dit qu'on avait touché les 90% au mois de mars, mais on est loin, on est encore à plus de 2 points du normatif Alten. Et deux points de taux d'activité, ça coûte 1,4, 1,5. Bon, tout ça pour dire que voilà, autant de raisons qui font que c'est impossible d'envisager un retour à une marge normative sur 2021.
Peut-être aussi donc sur le les locaux, bon, c'est vrai qu'il y a les questions de résiliation de baux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un projet un petit peu plus précis concernant, disons, on va dire, une nouvelle organisation du travail dans la durée, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de prévoir effectivement, disons, une pérennisation du télétravail dans leur business model, parfois 40 à 50% d'effectifs. Et évidemment une rationalisation de l'immobilier qui tourne autour, même si ça s'étale sur 3-4 ans. Où c'est que vous en êtes chez Alten?
Alors, nous pour l'instant sur le télétravail, on attend d'avoir l'expérience, c'est-à-dire suffisamment de recul pour voir ce qu'il est durablement possible de mettre en œuvre ou pas. Parce que d'un côté, il y a effectivement les économies de locaux qu'on peut mettre en œuvre. De l'autre, il y a toutes les pertes d'efficience liées au fait que quand les gens sont en télétravail, qu'ils ont un niveau de lien insuffisant avec l'entreprise, finalement, on perd en efficacité. Et ça, on peut le mesurer. Alors, de façon inégale selon déjà les métiers des gens, les types de projets, voilà. Mais nous on n'ira pas. Enfin, je veux pas. On n'a pas commencé la moindre négociation d'accord d'entreprise sur ces sujets-là. Hein. Donc, je veux pas m'avancer trop parce que les partenaires sociaux sur ces sujets sont toujours très chatouilleux. Mais je ne vois pas aller dans une direction à 40 ou 50% de télétravail. Ça me paraît pour nous impossible à imaginer. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens qui étaient, après le premier confinement, finalement, avaient trouvé ça plutôt agréable d'avoir la possibilité de s'organiser, bon, à part ceux qui avaient des conditions personnelles compliquées entre les enfants et leur logement, mais c'est pas le cas de la majorité des ingénieurs. Aujourd'hui, beaucoup demandent à revenir sur site. En tout cas régulièrement et pas juste une ou deux journées par semaine pour échanger avec leurs collègues parce que les projets c'est quand même un travail en commun et que c'est pas la même chose d'être au bureau et que d'être en visioconf. Voilà. Donc pour répondre précisément à la question, non, pour l'instant on n'a pas de plan précis parce qu'on attend un retour d'expérience et avoir plus de recul, donc on fera ça probablement à partir du moment où la situation sanitaire se sera stabilisée et qu'on pourra voir finalement comment les choses se seront passés sur 2 ans. Il faudra aussi voir ce que les gens souhaitent et puis regarder comment ça c'est compatible avec une efficacité sur les projets parce que ce qu'on ne mesure pas non plus aujourd'hui, nos ingénieurs sont en télétravail, je crois que le taux de télétravail au niveau groupe il doit être à 65% aujourd'hui, c'est-à-dire c'est considérable encore, avec des zones d'activité où on est au-dessus de 80% dans certaines régions du monde. Les clients, pour l'instant, disent rien. Enfin, en tout cas, ça a l'air de fonctionner comme ça. Il y a eu l'an dernier des demandes de certains clients d'appliquer des abattements pour perte de productivité de 20 ou 30% sur les factures. Bon, ça n'a pas tellement prospéré, hein, ce genre de demande, mais il n'y avait pas forcément, c'était pas forcément complètement infondé, je pense. Comme les clients eux-mêmes peuvent pas faire autrement, bah pour l'instant tout le monde s'en accommode. Il faudra voir ensuite comment les clients eux-mêmes vont s'organiser. Si effectivement nos clients sont à 60% en télétravail, peut-être qu'on pourra faire monter le niveau de télétravail, sûrement pas à 60% ni à 50%, mais plus que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Si les clients, finalement, après la phase de pandémie, font revenir plus de gens en présentiel, alors je sais que certains ont annoncé des taux de télétravail élevés, mais ensuite, il faudra voir comment ça fonctionne dans la durée. À ce moment-là, on en mettra peut-être un peu plus en télétravail. Mais pour l'instant, on n'a absolument pas, dans les projets qu'on a en immobilier, factoré cet élément d'organisation future du travail, parce que pour l'instant, ce n'est pas arrêté chez nous.
Merci, Bruno.
Il n'y a plus de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. Il n'y a plus de questions dans la file d'attente. Je vais donc redonner la parole à votre hôte.
Bon, écoutez, merci à tous pour avoir participé à la conférence téléphonique d'Alten, donc pour ce chiffre d'affaires du premier trimestre. Merci pour vos questions. Je vous donne rendez-vous, je crois que la prochaine publication, c'est le 28 juillet de cette année, pour le chiffre d'affaires donc du premier semestre 2021 cette fois-ci. On aura peut-être un peu plus l'occasion de parler de perspectives de marge à ce moment-là. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien et puis de profiter du printemps en espérant que les terrasses rouvrent dans pas très longtemps. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.